comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Jonathan Harker, 3-4 octobre, bientôt minuit. J'ai cru que la journée d'hier ne finirait jamais. Quelque chose me poussait à m'endormir. Une obscure confiance me disait qu'au réveil, je verrais un changement et que désormais, tout changement serait favorable. Avant de nous séparer, nous avons discuté de notre prochaine démarche sans résultat. Tout ce que nous savions, c'est qu'il reste une caisse où le comte peut se réfugier et que lui seul sait où elle se trouve. S'il choisit de rester caché, il peut nous tenir en échec des années. Et pendant ce temps, cette perspective est trop horrible, je n'ose l'envisager. Je ne suis sûre que d'une chose, c'est que s'il y eut jamais une femme douée de toutes les perfections, c'est bien ma pauvre chérie qui supporte ainsi ses souffrances. Je l'aime mille fois plus encore pour la douce pitié dont elle a fait preuve hier soir, une pitié qui a fait paraître basse ma haine pour ce monstre. Assurément, Dieu ne laissera pas le monde s'appauvrir par la perte d'un tel être. J'en ai le ferme espoir. Nous allons à la dérive maintenant, et nous n'avons qu'une ancre, la foi. Dieu merci, Mina dort d'un sommeil sans rêve. J'ai peur de ce que pourraient être ses rêves, nés de ses affreux souvenirs. Elle n'a plus été si calme, que je sache, depuis le crépuscule. Alors, pour un instant, j'ai vu sur son visage une paix semblable au printemps, après les giboulées de mars. Au moment même, j'ai cru que la douce lumière rosée du soleil couchant se reflétait sur son visage. Mais je crois maintenant que c'était une lumière intérieure. Je n'ai pas sommeil, bien que je sois épuisée, mortellement épuisée. Pourtant, je dois essayer de dormir. Il faut penser à la journée de demain. Il n'y aura pas de répit pour moi tant que... Plus tard. Je dois m'être endormie, car j'ai été réveillée par Mina qui était assise dans le lit, l'air effrayé. Je la voyais facilement car la chambre reste éclairée. Elle mit sa main sur ma bouche pour m'empêcher de parler et murmura à mon oreille « Écoutez, il y a quelqu'un dans le couloir. » Je me levai sans bruit, traversai la chambre et ouvris doucement la porte. Dehors, M. Maurice, bien éveillé, était étendu sur un matelas. Il leva la main pour m'imposer silence et me dit à voix basse « Chut, retournez-vous coucher. Tout va bien. Toute la nuit, l'un de nous veillera. Nous ne voulons courir aucun risque. » Son regard et son geste m'interdisaient de discuter, et je vins répéter ses paroles à Mina. Elle soupira, et réellement une ombre de sourire passa, fugitive, sur sa pauvre figure pâlie, lorsqu'elle m'entoura de ses bras et dit doucement « Merci à Dieu pour la bonté et le courage de ces hommes. » Et, dans un nouveau soupir, elle se rendormit. J'écris ceci maintenant car, pas plus que tout à l'heure, je n'ai sommeil, mais je vais de nouveau tâcher de dormir. 4 octobre, au matin. Mina m'a éveillée une seconde fois pendant la nuit. Mais enfin, nous avions fait tous les deux un bon somme, car le gris de l'aube naissante dessinait les rectangles des fenêtres, et la flamme du gaz n'était plus qu'un faible point lumineux. Elle me dit aussitôt « Allez chercher le professeur, je voudrais le voir immédiatement. Pourquoi » « Pourquoi ? » ai-je demandé. « J'ai une idée. Elle doit m'être venue cette nuit et a mûri sans que j'en aie conscience. Il doit m'hypnotiser avant le jour. Ainsi, je pourrai parler. Allez vite, le temps presse. » Je suis sortie de la chambre. C'était le docteur Seward qui, à présent, se reposait sur le matelas et, à ma vue, il bondit sur ses pieds. « Qu'y a-t-il ? Un nouveau malheur ? » commença-t-il, effrayé. « Non, dis-je. Mais Mina désire voir immédiatement le docteur Van Helsing. « Je vais le chercher, » dit-il. Et il courut à la chambre du professeur. Deux ou trois minutes après, Van Helsing, en robe de chambre, était là, tandis que M. Morris et Lord Godalming arrivaient à la porte et questionnaient le docteur Seward. Quand le professeur vit Mina, un sourire, un véritable sourire, effaça l'inquiétude de son visage. Il se frotta les mains en disant « Chère Madame Mina, quel changement! Voyez, mon ami Jonathan, nous retrouvons aujourd'hui notre chère Madame Mina, telle qu'elle était autrefois. » Se tournant vers elle, il ajouta gentiment « Et que puis-je pour vous? Car vous ne m'avez pas appelé pour rien, à par ailleurs. »« Je voudrais que vous m'hypnotisiez, » expliqua-t-elle. « Faites-le maintenant, avant le jour, car je sens que maintenant je peux parler, et parler librement. Vite, il ne nous reste que peu de temps. » Sans un mot, il lui fit signe de s'asseoir dans le lit. La regardant fixement, il commença à exécuter des passes devant elle, du haut de la tête vers le bas, avec chaque main alternativement. Mina le regarda fixement quelques minutes. Mon cœur battait comme un marteau-pilon, car je sentais qu'un instant critique approchait. Peu à peu, ses yeux se fermèrent et elle resta assise, immobile. Seule sa poitrine, en se soulevant doucement, indiquait qu'elle était vivante. Le professeur fit encore quelques passes, puis s'arrêta. Son front était couvert de grosses gouttes de sueur. Mina ouvrit les yeux, mais elle semblait être une autre femme. Son regard était lointain et sa voix avait une tristesse rêveuse que je ne lui connaissais pas. Levant la main pour imposer le silence, le professeur me fit signe d'introduire les autres. Ils entrèrent sur la pointe des pieds, refermèrent la porte derrière eux et s'approchèrent du pied du lit, regardant Mina. Celle-ci ne semblait pas les voir. Van Helsing rompit le silence. Il parla d'un ton bas et uniforme qui ne pouvait troubler le cours des pensées de Mina. « Où êtes-vous ? » Elle répondit d'un ton neutre. « Je ne sais pas. Le sommeil n'a pas de place qu'il puisse appeler sienne. » Le silence dura quelques minutes. Mina était assise, rigide, et le professeur, debout, la regardait encore fixement. Les autres osaient à peine respirer. Le jour éclairait la chambre. Sans quitter des yeux le visage de Mina, Van Helsing me désigna le store, que j'allais lever. Une lumière rosée inonda la pièce. Alors le professeur reprit. « Où êtes-vous en ce moment ?» Elle répondit avec une lenteur réfléchie. Elle semblait déchiffrer quelque chose. Je l'avais entendu parler de la sorte quand elle lisait ses notes sténographiées. « Je ne sais pas. Tout me paraît si étrange. Que voyez-vous ? Je ne peux rien voir. Tout est sombre. Qu'entendez-vous ? » Sous le ton patient du professeur, on devinait sa tension d'esprit. « Le clapotis de l'eau, tout près d'ici, et de petites vagues qui se soulèvent. Je les entends au dehors. » Alors, vous êtes sur un bateau ? Nous nous interrogions du regard, espérant tous saisir quelque idée l'un de l'autre. Nous avions peur de penser plus avant. La réponse vint rapide. Oui. Qu'entendez-vous d'autre ? Les pas des hommes qui piétinent et s'affairent au-dessus de ma tête. Il y a un raclement de chaînes et un cliquetis sonore quand le linguet arrête le cabestan. Que faites-vous ? Je suis tranquille, oh, si tranquille, comme une morte. » Elle se tut, poussa un profond soupir et elle referma les yeux. Pendant ce temps, le soleil s'était levé, il faisait grand jour. Le docteur Van Helsing mit les mains sur les épaules de Mina et reposa doucement la tête de la jeune femme sur l'oreiller. Elle demeura un moment étendue comme un enfant endormi, puis dans un long et nouveau soupir, elle s'éveilla et nous regarda, étonnée de nous voir tous autour d'elle. Elle dit seulement « Ai-je parlé dans mon sommeil ?» Elle semblait toutefois comprendre notre silence, bien qu'elle brûlât de savoir ce qu'elle avait dit. Le professeur lui répéta leur conversation, et elle eut la force de s'écrier « Alors, il n'y a pas un moment à perdre, il n'est peut-être pas trop tard !» Monsieur Morris et Lord Godalming s'élançaient déjà vers la porte, mais la voix calme du professeur les rappela. « Attendez, mes amis, ce bateau, où qu'il soit, levait l'ancre pendant qu'elle parlait. Il y a bien des bateaux qui lèvent l'ancre en ce moment dans votre grand port de Londres. Lequel est celui que vous cherchez ? Remercions Dieu d'avoir ce nouvel indice, même si nous ne savons pas où il mène. Nous avons été aveugles parfois, aveugles comme le sont les hommes, puisque quand nous jetons un regard sur le passé, Nous voyons ce qui eût été visible dès ce moment si nous avions été capables de voir ce qui était visible. Ma foi, cette phrase, c'est un vrai casse-tête, n'est-ce pas ? Nous pouvons comprendre maintenant dans quelle intention le comte a ramassé cet argent, même sous la menace du terrible poignard de Jonathan. Il voulait s'échapper d'Angleterre. Il ne lui reste plus qu'un seul coffre dont la terre pourrait le protéger. Plusieurs hommes le traquent comme des chiens traquent un renard. Il a embarqué sa dernière caisse sur un bateau et il quitte ce pays. Il compte nous échapper. Mais non, nous le poursuivons. Taillot, comme aurait dit notre ami Arthur en endossant son habit rouge. Notre vieux renard est rusé, oui, bien rusé. Et c'est aussi avec ruse que nous devons le traquer. Moi aussi, je suis rusé, et je connais nombre de ses pensées. En attendant, nous pouvons prendre quelque repos sans inquiétude, car l'eau qui nous sépare de lui, il ne désire pas la traverser. Et il ne le pourrait pas, même s'il le voulait, à moins que le bateau ne touche terre, et ce n'est possible qu'à marée haute ou quand la mer est étale. Allons, le soleil vient de se lever. Toute la journée, jusqu'au crépuscule, est à nous. Prenons un bain, habillons-nous, avant le petit déjeuner dont nous avons tous besoin et que nous pouvons prendre à notre aise, puisque le comte n'est plus sur le même sol que nous. Mina le regarda d'un air suppliant. « Mais pourquoi le poursuivre encore, puisqu'il est loin de nous ? » demanda-t-elle. Il lui prit la main, la caressa affectueusement et dit « Ne m'interrogez pas encore. » Après le déjeuner, je répondrai à toutes les questions. Il ne voulut rien ajouter, et chacun alla s'habiller. Après le déjeuner, Mina répéta sa question. Van Helsing la regarda un moment avec gravité, puis répondit avec tristesse. « Parce que, chère, chère Madame Mina, maintenant plus que jamais nous devons le trouver, quand bien même cette poursuite nous mènerait jusqu'en enfer. » Elle pâlit et insista. « Pourquoi ?» Parce qu'il peut vivre des siècles, tandis que vous n'êtes qu'une mortelle. Le temps est notre ennemi depuis que le comte a mis cette marque sur votre gorge. Il eut juste le temps de la retenir dans ses bras. Elle s'affaissait, évanouie. Chapitre 24. Message de Van Helsing enregistré par le docteur Seward pour Jonathan Harker. Il vous faut rester avec votre chère Madame Mina. Nous partirons faire notre recherche, si je puis ainsi dire, car ce n'est pas une recherche, puisque nous savons déjà. Nous désirons simplement avoir une confirmation. Vous, ne bougez pas et prenez soin d'elle aujourd'hui. C'est votre devoir le plus sacré. La journée présente ne peut pas le trouver ici. Mais il faut que je vous explique ce que nous quatre savons déjà. Lui, notre ennemi, est parti. Il est retourné à son château en Transylvanie. J'en suis aussi sûre que si une grande main de feu l'avait écrit sur le mur. Il avait fait ses préparatifs et la dernière caisse de terre était prête pour être embarquée quelque part. C'est en vue de cela qu'il s'est pourvu d'argent, qu'il s'est hâté au dernier moment de peur que nous le saisissions avant le coucher du soleil. C'était son dernier espoir. Sauf qu'il pouvait se cacher dans la tombe que la pauvre mademoiselle Lucie, pensait-il, lui gardait ouverte. Mais il n'était plus temps. Après son échec, il est allé tout droit à sa ressource dernière. Il est intelligent, oh combien ! Il a compris que la partie était terminée ici, et il a décidé de rentrer. Il a trouvé un bateau qui pourrait le ramener. Il l'a pris. Il nous faut à présent découvrir le bateau. Dès que ce sera fait, nous reviendrons vous le dire, et nous vous réconforterons, vous et la pauvre chère Madame Mina, d'une nouvelle espérance. Tout n'est pas perdu. La créature que nous poursuivons, il lui a fallu des centaines d'années pour parvenir à Londres. Et une seule journée maintenant, que nous connaissons son plan, suffit pour l'en chasser. Il est perdu. Bien qu'il soit assez fort encore pour faire beaucoup de mal, sans souffrir comme nous. Mais nous sommes forts, nous aussi. Chacun de nous est résolu pour son compte et notre entente nous affermit davantage encore. Haut les cœurs, cher époux de Madame Mina, la lutte ne fait que commencer et nous serons victorieux, aussi sûrement que Dieu siège là-haut pour veiller sur ses enfants. Attendez donc courageusement jusqu'à notre retour. Van Helsing. Journal de Jonathan Harker, 4 octobre. Quand j'ai fait entendre à Mina le message enregistré de Van Helsing, la pauvre enfant s'est rassérénée. Rien que de savoir le compte hors du pays l'a apaisée, et cette paix l'a rendue plus forte. En ce qui me concerne, depuis que ce danger horrible n'est plus actuel, j'ai peine à y croire encore. Même mes propres et terribles expériences dans le château de Dracula me paraissent un vieux rêve oublié. Ici, dans l'air vif de l'automne, au grand soleil. Hélas, comment puis-je douter? Tandis que je pense à tout ceci, mes yeux tombent sur la balafre écarlate qui abîme le front blanc de ma pauvre bien-aimée. Aussi longtemps qu'elle y sera, tout doute est impossible. Et plus tard, son seul souvenir nous convaincra de n'avoir point rêvé. Mina et moi, nous redoutons si fort l'oisiveté que nous revenons sans cesse à nos journaux. Quoique la terrible réalité semble croître à chaque fois, la souffrance et la peur semblent en quelque sorte diminuer. Une sorte de fil conducteur se manifeste à présent, qui nous réconforte. Mina dit que peut-être nous servons d'instrument pour une œuvre qui, finalement, sera bienfaisante. Qu'il en soit ainsi. Je veux essayer de penser comme elle. Jusqu'ici, nous n'avons jamais parlé ensemble de l'avenir. Mieux vaut attendre d'avoir vu le professeur et les autres au retour de leurs investigations. La journée s'écoule plus rapidement que je n'aurais pensé que ce fût encore possible pour moi. Il est 3 heures. Journal de Mina Harker, 5 octobre, 5 heures après-midi. Relation de notre entretien. Présent, le professeur Van Helsing, Lord Godalming, le docteur Seward, M. Quincy Morris, Jonathan Harker, Mina Harker. Le professeur Van Helsing expose comment ils ont découvert le bateau sur lequel le comte Dracula s'est embarqué pour fuir, et la destination de ce bateau. Quand j'ai su qu'il se proposait de rentrer en Transylvanie, j'ai été sûre que ce serait par les bouches du Danube ou par quelque port de la mer Noire, puisqu'il était venu par là. Nous avions le vide devant nous. Omne ignotum pro magnifico. Tout ce qui est inconnu paraît immense. Et nous avions le cœur lourd en allant à la recherche des navires partis l'autre nuit pour la mer Noire. Il s'agissait d'un voilier, d'après la déclaration de Madame Mina, et ces bateaux-là sont trop peu importants pour figurer dans la liste des départs publiée par le Times. Lord Godalming nous a conseillé d'aller au Lloyd, où est consigné chaque bateau partant, si petit qu'il soit. Nous y avons trouvé qu'un seul bateau était en partance pour la mer Noire, avec la marée haute. le Tsarine Catherine, ancré au quai Doolittle, en destination de Varna, puis d'autres ports, sur la remontée du Danube. « Bien, dis-je, c'est là qu'est le compte. » Nous voilà partis pour le quai Doolittle, où nous avons trouvé un homme dans une baraque si petite qu'il paraissait plus grand que son bureau. Nous lui avons demandé des renseignements sur les voyages du Tsarine Catherine. C'est un homme qui jure sans arrêt, dont le visage est écarlate et la voix tonitruante. Mais il est bon diable après tout. Quincy tira pour lui de sa poche une chose qui craquait quand il la roulait et la glissa dans un petit sac caché sous son vêtement. L'autre s'est montré de plus en plus traitable et notre humble serviteur. Il nous accompagna et interrogea des hommes grossiers et irascibles, mais qui s'adoucirent aussi quand ils eurent cessé d'avoir soif. Ils parlèrent beaucoup de tonnerre et d'enfer et de choses que je ne comprenais pas, mais que je devinais. Cependant, ils nous dirent tout de même tout ce que nous désirions savoir. Hier après-midi, ils ont vu arriver, vers 5 heures, un homme en grande hâte. Un homme grand, mince et pâle, avec un grand nez et des dents blanches, blanches, et des yeux qui semblaient flamboyer. Il était tout en noir, sauf un chapeau de paille qui ne cadrait ni avec sa personne, ni avec la saison. Il distribuait de l'argent, s'enquérant à la hâte des bateaux qui partaient pour la mer Noire, et pour quel port. On l'emmena au bureau, puis au bateau. Il n'a pas voulu monter sur le pont, mais s'est tenu sur le quai, au bout de la planche d'embarquement, en priant le capitaine de venir lui parler. Le capitaine est descendu quand il a su qu'il serait bien payé, et après beaucoup de jurons, il a marqué son accord. Alors l'homme maigre est parti, après s'être fait montrer l'endroit où il pourrait louer une carriole et un cheval. Il s'en est allé, mais pour revenir bientôt, conduisant lui-même la carriole, sur laquelle était une grande caisse qu'il mit à terre, à lui seul, et cependant il a fallu plusieurs hommes pour l'embarquer. Il donna beaucoup d'explications au capitaine sur l'endroit et la manière de placer la caisse. Le capitaine n'aimait pas ça, et jura dans toutes les langues, et lui dit que si ça lui plaisait, il pouvait venir et surveiller lui-même l'embarquement de la caisse. L'autre dit que non, qu'il ne pouvait pas y aller à présent, parce qu'il avait trop à faire. Sur quoi, le capitaine lui conseilla de se hâter, tonnerre, que son bateau partirait, tonnerre, avec la marée haute, tonnerre. Cela fit sourire l'homme maigre. Bien sûr, le capitaine partirait au moment qu'il jugerait bon, mais il serait, lui, bien étonné si c'était si tôt. Le capitaine se remit à jurer, polyglottement. L'homme maigre le salua et lui dit qu'il se permettrait de monter à bord avant le départ. Pour finir, le capitaine, plus rouge que jamais, et dans des langages de plus en plus variés, déclara qu'aucun Français ne serait le bienvenu sur son bateau, tonnerre et enfer et que sais-je. L'autre demanda s'il y avait aux environs une boutique où il pourrait acheter des formulaires et s'en fut. Personne ne sut où il est allé, car ils avaient autre chose à penser, au tonnerre et l'enfer, peut-être, car on vit bientôt que le Tsarine Catherine ne partirait pas au moment prévu. Une brume légère se mit à monter du fleuve, puis s'épaissit jusqu'à devenir un brouillard dense qui entoura le bateau. Le capitaine continuait à jurer dans toutes les langues, tonnerre et tonnerre. Mais que pouvait-il y faire? L'eau montait, montait. Le capitaine commençait à craindre de manquer le moment de la marée, et il était de fort mauvaise humeur quand, à l'instant précis où le niveau du fleuve était le plus haut, l'homme maigre arriva à la planche d'embarquement et demanda à voir où son coffre avait été garé. Sur quoi, le capitaine répondit qu'il les souhaitait, lui et son coffre, au fond de l'enfer. L'homme ne prit pas cela en mauvaise part. Il descendit avec le second maître, repéra l'endroit, remonta et resta un instant sur le pont, dans le brouillard. Il a dû s'en aller tout seul, sans qu'on le voie. À vrai dire, on ne s'est pas occupé de lui. Car le brouillard commença à se dissiper et le temps bientôt redevint clair. Tout en se désaltérant, mes nouveaux amis ont ri en racontant que les jurons du capitaine dépassaient son polyglottisme et son pittoresque habituel. Et surtout lorsque, en questionnant d'autres matelots qui avaient sillonné le fleuve à ce moment, il apprit qu'il n'avait vu aucun brouillard autre part, excepté autour de ce quai. Enfin, le bateau partit à marée basse, et au matin, il était certainement loin en aval. Au moment où ils nous parlèrent, il devait être en mer. Ainsi donc, Madame Mina, nous avons un moment de répit, car notre ennemi est sur les flots, avec le brouillard à ses ordres, en route pour les bouches du Danube. Si vite qu'aille un navire, il lui faut du temps. Par voie de terre, nous le rattraperons. Notre meilleure chance sera de tomber sur lui quand il sera dans son coffre, entre le lever et le coucher du soleil. Car à ce moment, il ne peut se défendre, et il est à notre merci. Nous avons plusieurs jours devant nous pour mettre notre plan au point. Nous savons où il va, car nous avons vu l'armateur qui nous a montré les factures et autres papiers. Le coffre doit être débarqué à Varna, remis à un agent, un certain Ristix, qui présentera sa procuration. Après quoi, notre ami le capitaine aura accompli sa mission. En cas de difficulté, il nous a demandé s'il pourrait télégraphier et s'informer à Varna. Nous avons répondu négativement, car ce qui reste à faire ne concerne ni la police, ni la douane. C'est nous qui l'accomplirons, et par notre propre méthode. Quand le docteur Van Helsing eut terminé, je lui demandai s'il était certain que le comte fût resté à bord. « Nous en avons la preuve la plus sûre, dit-il, votre propre témoignage pendant votre sommeil de ce matin. » Je lui demandai encore s'il était vraiment nécessaire de donner la chasse au comte, car je redoutais de voir Jonathan me quitter, et je savais qu'il partirait certainement si les autres le faisaient. Il me répondit avec une conviction croissante, après avoir commencé de sa voix calme. Il s'anima à mesure qu'il parlait, au point de nous faire sentir à la fin où résidait cette autorité personnelle qui, depuis si longtemps, faisait de lui un maître parmi les hommes. Oui, c'est nécessaire, absolument nécessaire. D'abord à cause de vous, ensuite à cause de l'humanité. Ce monstre a déjà fait beaucoup de mal dans le cercle étroit où il se trouve, et pendant le court délai où il n'était qu'un corps cherchant sa mesure dans l'ombre et ne la connaissant pas encore. Je dis tout cela à nos amis. Vous, chère madame Mina, vous l'apprendrez par l'enregistrement de John ou celui de votre mari. Je le leur ai dit. Sa décision de quitter son pays stérile, peu peuplé, pour venir dans un pays nouveau où la vie humaine pullule jusqu'à ressembler à la multitude des épis, ce fut l'ouvrage de plusieurs siècles. Si un autre parmi les non-morts avait tenté cette même entreprise, tous les siècles qui furent et ceux qui seront n'y auraient peut-être pas suffi. Pour lui seul, l'ensemble des forces de la nature, mystérieuses, profondes, efficaces, ont collaboré d'une façon presque miraculeuse. L'endroit même où il a vécu, non mort depuis tous ces siècles, est plein de bizarreries géologiques et chimiques, de cavernes ténébreuses, de fissures qui vont on ne sait où, d'anciens volcans dont certains cratères laissent encore échapper des eaux aux propriétés étranges, des gaz qui tuent ou qui vivifient. Il y a certainement quelque chose de magnétique ou d'électrique dans certaines combinaisons de forces occultes qui travaillent d'une manière surprenante au profit de la vie physique. Et en lui-même existait au départ certaines grandes qualités. Dans une époque dure et guerrière, on le loua d'avoir des nerfs d'acier, un esprit subtil, un cœur plus brave que nul homme au monde. Un principe vital a curieusement trouvé en lui sa forme extrême. Et de même que son corps restait vigoureux, grand, robuste, tel était aussi son cerveau. Tout cela indépendamment de l'aide démoniaque qui lui est sûrement acquise, mais qui doit céder aux puissances qui viennent du bien. Et maintenant, voici ce qui est à notre égard. Il vous a marqué. Oh, pardonnez-moi, ma chère, si je parle ainsi. Je ne le fais que dans votre intérêt. Il vous a marqué de telle façon que, même sans qu'il aille plus loin, il suffit que vous viviez à votre manière habituelle, si douce, et la mort, qui est le lot commun de l'humanité, approuvée de Dieu, vous fera un jour dit semblable à lui. C'est cela qui ne doit pas être. Nous avons fait serment que cela ne serait pas. Nous sommes en cela les ministres de la volonté de Dieu, que le monde et les hommes pour lesquels son fils est mort ne soient pas livrés à des monstres dont la seule existence serait sa honte. Il nous a permis de sauver déjà une âme, une seule. Et nous partons comme les anciens croisés, afin d'en sauver davantage. Comme eux, nous partirons vers l'Orient, et comme eux, si nous tombons, ce sera pour une bonne cause. »